Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
Bonjour chers amis, Radio Cité s'est déplacée pour une fois pour son émission Nectar à l'école de Changin. Je ne sais pas si ce nom de Changin vous est familier, mais en tout cas dans le monde de la viticulture, tout le monde le connaît. Et disons que c'est peut-être un petit peu la Mecque de la viticulture. Donc nous avons le plaisir d'être en face de Monsieur Conrad Briguet, qui est le directeur de l'école de Changin, et de Madame Denise Cugini, voilà, qui vont répondre à nos questions, parce que nous devons l'avouer, nous partons de zéro. Alors, je vais commencer par vous flatter au point de vous faire rougir. J'ai entendu dans la région et bien hors de Genève et du canton de Vaud, en Bourgogne par exemple et ailleurs, dire que l'école de Changin était la meilleure du monde. Est-ce que vous confirmez ?
Alors, bien entendu que je confirme et ça me fait extrêmement plaisir d'entendre ces paroles très flatteuses. Non, blague à part, nous sommes effectivement une très bonne école qui allie formation pratique et théorique. Et c'est peut-être pour cette raison que certaines personnes, effectivement, de beaucoup de pays alentours qui viennent se former chez nous, vous ont dit qu'on était la meilleure école du monde. On va dire la meilleure, probablement, dans l'alliance entre pratique et théorie, et puis l'alliance entre viticulture et œnologie dans la même formation.
On peut peut-être mesurer un petit peu le succès de l'école de Changin à un indice, c'est-à-dire que je suppose que des gens viennent donc d'assez loin pour venir se former.
Alors, nous sommes en premier lieu dédiés à la formation des Suisses. Hein. Nous sommes la seule école au niveau suisse, mais nous avons plus de 30% d'étudiants étrangers que nous acceptons. Nous pourrions en prendre plus, mais on a une limite à environ un tiers. Et ces gens viennent d'un petit peu partout avec... pour des raisons probablement linguistiques, quand même une large proportion de Français. Que ce soit de Bordeaux, de Champagne, de Bourgogne, d'Alsace, en fait un petit peu de toutes les régions françaises, de Corse aussi.
Voilà, mais en principe ils ont tout ce qu'il faut. En Bourgogne, puisque vous avez cité ce vignoble, ils ont une école à Dijon.
Oui, une excellente école, c'est vrai, à l'université, avec la licence vigné-vin qui est très reconnue. Et... Ce qu'il faut dire, ce que l'on constate, c'est que les raisons qui amènent ces étudiants à venir chez nous plutôt que dans d'autres écoles en France sont au nombre de deux. La première, c'est qu'ils viennent chercher chez nous la spécificité HES, donc haute école spécialisée, qui a un côté professionnalisant. On obtient un bachelor en 3 ans avec un côté concret et pratique qui est vraiment l'essence même du système HES. Et la deuxième raison qui pousse ces étudiants à venir chez nous, c'est que dans la même formation, nous allions viticulture et œnologie. Ça peut vous paraître surprenant, mais dans la plupart des universités, viticulture et œnologie ne sont pas...
Ne sont pas associés.
La viticulture, c'est de l'agronomie, donc du département d'agronomie. Et l'œnologie, c'est le plus souvent de la chimie ou associé au département de pharmacie. Et voilà, c'est deux formations ou deux cursus relativement bien séparés. L'avantage chez nous, c'est que ça se fait en même temps, dans la même formation.
Voilà, il me semble que c'est une idée un peu basique parce que j'entends souvent dire de la bouche des vignerons que faire du bon vin, c'est à 90% du beau raisin. Est-ce que vous partagez cette opinion et plus précisément ce pourcentage ?
Je confirme totalement. Et pour arriver effectivement à faire un bon vin, il faut d'abord être un bon vigneron ou alors... sélectionner la provenance de ces raisins. Et après, la subtilité ou le savoir-faire de l'œnologue, c'est relativement peu d'intrants. Et surtout, arriver à mettre en valeur, à faire éclore ce qu'il y a dans ce magnifique raisin. Nous ne sommes plus comme dans les années 70-80 avec cette idée qui courait à l'époque de dire... donnez-nous du raisin, on peut faire, on est très fort, on arrive à faire de l'excellent vin. On pourra faire des vins corrects, oui, mais on fera jamais d'excellent vin avec une mauvaise matière première, avec un raisin de piètre qualité.
Voilà, ben j'applaudis des deux mains. Enfin, Victor Hugo a fait observer qu'on peut difficilement applaudir d'une seule main, mais je crois que c'est une vérité qu'il faut mettre en avant, parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent que dans la cave où se produit toute une chimie, on peut faire des miracles et qu'à partir d'un mou qui serait médiocre, on ferait un grand vin. Donc, remettons les choses à leur juste place et d'abord des beaux raisins. Eh bien, chers auditeurs de Radio Cité, c'est le moment de vous accorder une petite pause sous forme de ritournelle.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Voilà, Aristide vous salue pour la seconde fois. Vous êtes sur Radio Cité, vous écoutez l'émission Nectar et nous avons le privilège d'être à Changin, qui est le temple de la viticulture, comme nous l'avons dit, en compagnie de Madame Denise Cugini et de Monsieur Conrad Briguet, qui est le directeur. Voilà. J'aimerais juste évoquer la dimension recherche de l'école de Changin. Bon, ce que l'on constate et que chacun sait, c'est que dans le domaine de la médecine et le domaine hospitalier, d'une université, d'un hôpital à l'autre, de chercheur à l'autre, on communique et on partage les recherches pour que le progrès soit commun. Est-ce que la recherche dans le domaine de la viticulture est aussi, par exemple, partagée à l'international ?
Alors, totalement, il y a une précision à donner à la Haute École de Changin. Comme nous sommes une haute école spécialisée, cela ne fait que 20 ans que la recherche appliquée fait partie de nos missions. À côté de l'enseignement, qui est la mission évidemment prioritaire ou essentielle, nous avons une mission de recherche. Et cette mission de recherche, on l'accomplit en collaboration également avec Agroscope, qui se situe sur le même site, qui est donc la station fédérale de recherche agronomique, celle qui a pour mémoire sélectionné tous les nouveaux cépages que l'on a en Suisse. Ça, c'est vraiment Agroscope. Et l'école se concentre depuis 20 ans maintenant à progresser en matière de recherche, en particulier dans les systèmes de culture de la vigne, mais aussi et surtout dans toute la partie œnologie et technologie de cave. Ça, c'est vraiment notre fer de lance. Et maintenant, je reviens à la question qui était, est-ce que c'est partagé à l'international ? Oui, énormément. Nous avons, depuis 20 ans, développé énormément les relations internationales, en commençant par aller très loin, du côté de la Californie et du côté de l'Australie, d'Adélaïde notamment. Et maintenant, nous redéployons nos contacts plutôt du côté Europe, avec Bordeaux et Montpellier notamment, sachant que la Bourgogne avec Dijon était déjà une relation que nous avions depuis près de 30 ans.
Voilà, donc nous avons bien noté qu'il y a une certaine internationalisation, mais est-ce qu'on peut pas dire à l'inverse que chaque vignoble a sa tradition ? Sa spécificité ?
Totalement. C'est ce qui nous place dans une situation un petit peu particulière par rapport à certains autres domaines de compétences. Nous jouons quotidiennement entre tradition et innovation. Et l'un n'empêche pas l'autre, parce que, on va dire, dans les régions à grande tradition, ben, il s'agit pas de s'endormir sur ses lauriers et de continuer sans progresser. La tradition doit être accompagnée par beaucoup d'innovation, d'une part pour rester compétitif et d'autre part pour quand même correspondre au goût du consommateur qui évolue quand même très sensiblement.
Là, j'allais parler du goût parce que, en somme, je pense que nous en sommes tous convaincus, le goût des Californiens n'est pas forcément le même que le goût des Tessinois ou des Neuchâtelois.
Alors, totalement, et c'est vrai que pour parler de la Suisse, nous avons développé, ou on va dire la viticulture suisse a développé ces 30 dernières années des vins plus charnus, plus puissants, qui ont été élevés en barrique. Ça a été un apprentissage, hein. Dans les années 80, personne ne savait vraiment comment s'y prendre. Et puis, comme toujours, quand on va dans un sens, ben le pendule a tendance à revenir un petit peu à son équilibre. On est allé un petit peu trop loin dans des vins qui étaient trop barriqués, comme on dit.
J'applaudis trop de nouveau.
Et voilà, maintenant on revient un petit peu à l'équilibre, et parce que nous avons appris. Mais c'est vrai que ce goût du consommateur, ben, il a évolué vers des vins qui sont un peu plus tanniques. Et maintenant, on arrive. Peut-être vous l'avez remarqué, le Chasselas était tombé en désuétude pendant 10-15 ans. Et maintenant, il reprend. Il reprend de l'intérêt, de l'attractivité auprès des consommateurs, alors que c'est un vin très subtil, qui est peu ou pas aromatique, donc qui va pas attirer les non-spécialistes du premier coup. Mais quand on sait bien les faire, et c'est là tout le savoir-faire du vigneron et de l'œnologue, on arrive à faire reprendre ces lettres de noblesse à ces cépages-là.
Oui, c'est ma religion. Je crois que dans la Bible, il y a marqué « Donne-nous notre pain quotidien ». J'aimerais qu'il soit écrit dans le même livre « Donne-nous notre chasselas quotidien ».
Oui, ça fait plaisir de vous entendre.
Oui, j'aimerais bien. Non, mais je crois que le chasselas, lui seul, mériterait toute une émission, parce que c'est vrai que je me rappelle des chasselas il y a 40 ans, qui n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant. Et je vois toute une évolution du chasselas, des goûts, des chasselas qui étaient minceaulets au départ, il y a 40 ans par exemple, et puis maintenant qui ont presque tendance, selon les cas, à devenir trop capiteux. Qu'en pensez-vous ? C'est un jugement très personnel.
Oui, c'est toute la difficulté. Il faut bien avouer que le réchauffement climatique, qui a bien des conséquences négatives, en a une quand même positive sur la viticulture suisse en général. Mais ça, c'est dit de façon très grossière et très générale. Après, de façon plus détaillée, ben voilà, les risques, c'est de pas suffisamment maîtriser la maturité, de laisser certains raisins mûrir trop fortement, de plus avoir l'équilibre entre la maturité des tanins, de la pellicule, la maturité des arômes, qui peut les faire éclore. Donc là, c'est là où on revient à toute le savoir-faire de l'œnologue, qui, non pas avec de la chimie, mais avec la juste date de récolte de ces cépages, je pense, au chasselas, qui est difficile aussi, au pinot noir, qui est relativement difficile. On a aussi des pinots noirs qui sont trop riches. Et là, il y a tout un savoir-faire à développer. C'est aussi ce à quoi notre école s'attache à faire.
Voilà, je me suis complètement égaré par rapport aux questions que je voulais vous poser. Mais j'étais trop content de vous entendre. En somme, la Romandie, clairement, pour évoquer encore une fois le chasselas, c'est le haut lieu mondial du chasselas.
Oui, tout à fait. Il y a une certaine, je sais pas comment il faut dire, mais les vignerons de Romandie cultivent le chasselas depuis très longtemps, hein, dans le canton de Vaud notamment, avec toutes ces parcelles qui appartenaient au clergé, aux différentes abbayes. Ça fait longtemps que les moines ont implanté le chasselas chez nous. Et il y a un savoir-faire que d'autres régions n'ont pas. On pense par exemple à l'Alsace, qui a abandonné le chasselas, qui avait une grande surface de chasselas jusque dans les années 60, si je me trompe pas, et qui l'a petit à petit abandonné. Aujourd'hui, on en trouve encore quelques hectares. Et en Suisse, pourquoi est-ce qu'on l'a gardé? Je crois que c'est par cet attachement un peu viscéral, ou historique plutôt, et puis en raison de ce savoir-faire. C'est pas facile de vinifier du chasselas. Et les Suisses romands ont cette tradition, l'ont maintenue dans les années où le chasselas a été décrié. Et puis maintenant, on voit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il reprend ses lettres de noblesse et on a bien fait de le maintenir.
Oui, c'est magnifique. Chers auditeurs, une petite pause musicale en compagnie de Mozart.
Radio Cité Genève,
92.2 FM.
Voilà, vous êtes toujours avec Aristide, vous êtes toujours sur Radio Cité, vous avez donc fait le bon choix. Et nous sommes à l'école de Changin, qui est donc le haut lieu de la viticulture. Denis Cugini, vous vouliez nous raconter une anecdote sur le chasselas. Nous en sommes friands d'anecdotes, non ?
Non, pas forcément une anecdote sur le chasselas, si ce n'est que pour avoir beaucoup de famille en Italie qui a quitté la Suisse il y a 25 ans, lorsque je leur amène du chasselas maintenant, parce que je leur en amène, ils sont très étonnés et très friands.
Ils connaissent pas ?
Ils connaissaient pas, maintenant ils commencent à connaître, vu que ça fait plusieurs années que je leur en amène. Et au début, ils étaient assez sceptiques, parce qu'évidemment, les vins en Italie, c'est différent. Et depuis quelques années maintenant, c'est moi qui dois fournir le vin blanc pour les repas de Noël, pour les repas de Pâques et pour l'été, pour l'apéro.
Voilà, donc ces bonnes gens ont réussi leur rééducation.
Oui, j'ai réussi leur rééducation.
Voilà, très bien.
Donc, ils étaient preneurs.
Oui, très bien. L'école de Changin, du point de vue administratif, je me demandais un petit peu quel était également son statut. Est-ce que c'est une école privée ? Est-ce que c'est une école cantonale ? Est-ce que c'est une école fédérale ? Quel est son statut ?
Merci de la question, parce que c'est toujours assez compliqué. Pour faire simple, nous sommes une haute école spécialisée, partie intégrante de la HESSO, donc la haute école spécialisée de Suisse occidentale. Et nous sommes aussi une école supérieure qui dépend du canton de Vaud. Et nous sommes en fait portés par une fondation de droit privé qui s'appelle la Fondation Changin, qui existe depuis 1948. Mais cette fondation, elle n'a de privé que le nom ou le statut juridique, puisque nous sommes subventionnés, on va dire, à quasi 100% par les pouvoirs publics. Pour ce qui concerne l'école supérieure et la haute école spécialisée.
Pouvoir public roman ? Oui. Roman ou bien ?
Alors,
est-ce qu'il y a une spécificité vaudoise, vu que vous êtes tout proche de Nyon ?
Oui. Alors, il y a une spécificité vaudoise pour l'école supérieure, parce que le système suisse impose, en fait, au canton site dans laquelle se trouve l'école supérieure, d'assumer son financement. Mais pour toute la partie HES, donc la partie haute école, ce sont les règles, on va dire, de financement intercantonal qui jouent le jeu. Donc nous recevons notre financement de la HESSO directement, et chaque canton, tous les cantons de Suisse, contribuent en fonction du nombre d'étudiants qu'ils envoient chez nous, mais par le biais des accords intercantonaux.
Voilà, alors, après ça, logiquement, je dois vous poser la question, quels sont les titres que vous décernez ?
Alors, le titre le plus important ou le plus prestigieux, je ne sais pas comment il faut dire, c'est le bachelor en viticulture et œnologie. C'est donc un cursus de 3 ans. Après cela, une petite partie de nos étudiants, un 10% à peu près de nos diplômés, continuent en master. Donc c'est le Master of Science en viticulture et œnologie que nous décernons et que nous organisons en collaboration avec le Master européen Vinifera qui est piloté par Montpellier.
Voilà, donc comment en musique, puisque personnellement je suis investi dans la musique, on peut dire que le bachelor ça correspond à une licence et le master à un doctorat ?
Non.
Quelque chose comme ça ?
Alors, bachelor, licence, ça peut correspondre. Master, les Français disent maîtrise, mais le doctorat vient après le master. Et en principe, le doctorat n'est pas prévu dans le système HES suisse.
D'accord. Et alors, vos titres sont reconnus partout ?
Nos titres sont reconnus officiellement sur, on va dire, dans le monde entier ou par tous les pays qui reconnaissent l'accord de Bologne. Qui avait mis en place ce système à deux niveaux, bachelor et maîtrise, bachelor et master, comme on les appelle.
Voilà, d'accord. Je sais pas, je suis vigneron, j'ai mon diplôme, mais je vais le punaiser dans ma cave, dans mon carnet de cèpes.
Alors, oui, dans la structure suisse, nous avons une belle proportion, probablement un tiers, voire la moitié des vignerons caveurs de Suisse qui sont diplômés au niveau bachelor en viticulture et œnologie, ou qui ont, pour les plus âgés, alors que le bachelor n'existait pas, qui ont encore le titre d'ingénieur ETS en viticulture et œnologie.
D'accord.
Ça, c'est la formation la plus élevée, la plus, comment dire, où la part de science et de connaissances fondamentales est la plus forte. Nous avons une formation, on va dire, intermédiaire, qui est l'école supérieure de techniciens vitivinicoles, qui dure 2 ans, et qui est vraiment, elle, axée sur l'opérationnel. On apprend aux étudiants qui entrent chez nous et qui ont un CFC de viticulteur ou de caviste, donc une formation de base déjà bien, bien solide, mais qui reste une formation CFC de base, on leur apprend vraiment les bases concrètes, l'opérationnel et la gestion d'entreprise. Et là, ce sont d'excellents gestionnaires d'entreprise du type vigneron en caveur. Et ça, probablement que, qu'est-ce qu'il faut dire, un tiers ou la moitié des vignerons en caveur ont ce type de diplôme. Pour revenir au bachelor, il n'est pas, comment dire, prévu, enfin, il n'est pas conçu pour devenir vigneron en caveur, même si une bonne partie d'entre eux ont cette formation-là. Il est en principe conçu pour des postes de cadre dans des plus grandes caves, des postes d'œnologue responsable dans de plus grandes entreprises ou dans des PME, hein, on en a quand même beaucoup en Suisse romande, ouais. Des négociants, comme on les appelle, hein, qui sont quelque part entre le vigneron en caveur et la grande coopérative ou la grande entreprise vitivinicole. Et c'est pour cela que ces formations de bachelor sont en principe conçues. Mais qui peut le plus, peut le moins. Et parmi les bons vignerons caveurs innovants, beaucoup ont également ce diplôme de bachelor.
Voilà. Je voulais vous poser la question de l'accès aussi à vos cours. En somme, par analogie, si je veux aller à l'université, il faut que j'ai ma matu préalablement. Et est-ce que je peux m'inscrire à Changin si j'y connais rien, si je ne possède aucun titre, donc en amateur dilettante?
Alors, pas dans les formations dont nous venons de parler, hein, bachelor et école supérieure, il faut avoir une formation de base ou une maturité de type gymnasial ou une maturité professionnelle. Par contre, vous pouvez vous inscrire comme dilettante sans aucune formation prérequise à ce qu'on appelle notre école du vin de Changin, qui offre des cours de formation à la dégustation, à la connaissance des cépages, à la connaissance des vignobles, aux rudiments de la vinification. Ce sont des cours, en principe des cours du soir, de 4 à 6 soirées selon les modules de base de 4 heures chacune, donc quand même des formations comment dire, très sérieuses avec des enseignants extrêmement professionnels et avec une totale indépendance par rapport à la provenance des vins que nous faisons déguster.
Oui, donc vous offrez en somme une double formation, si je comprends bien, pour des professionnels, mais aussi pour des amateurs de vin, oui, qui veulent étoffer leurs connaissances plutôt que de discutailler dans le vide ou jouer les perroquets de ce qu'ils ont lu dans les revues.
Exactement, exactement. Et je dois dire qu'elle a un bon succès, cette école. Pour revenir à votre question de tout à l'heure par rapport à notre financement, cette école-là, donc l'école du vin de Changin, ne reçoit aucun financement. Voilà. Donc là, les écolages ou les taxes de cours, les taxes d'écolage pour suivre ces modules sont censées payer l'entier de la formation. Donc c'est relativement, voilà, ça n'est pas donné, mais ça en vaut la peine parce qu'on privilégie vraiment la qualité des enseignants et des vins qui sont proposés.
Voilà, donc avis aux bons entendeurs. Le moment est venu de nous accorder une nouvelle petite pause.
Radio Cité Genève,
92.2 FM.
Voilà, chers amis, vous êtes sur Radio Cité en compagnie d'Aristide, mais surtout en compagnie de Denis Cugini et de Conrad Briguet, qui sont tous les deux des personnages clés à l'école de Changin. Il y a un point sur lequel vous vouliez revenir, Denis Cugini, qui a trait à l'entrée et aux qualifications requises.
Oui, ce que je voulais préciser par rapport aux formations que nous offrons ici à Changin, c'est que la haute école qui offre donc le bachelor et le master, c'est un titre d'ingénieur que les diplômés ont en sortant. Donc c'est vraiment une approche différente du métier. Le technicien vitivinicole, il sera plus dans la pratique. Il sera plus dans la gestion d'un domaine, il sera plus direct. Comme on disait, qui peut le plus, peut le moins. Effectivement, l'ingénieur, il peut gérer un domaine, mais on attend de lui aussi, c'est qu'il puisse innover et appliquer des nouvelles techniques par rapport aux défis actuels que sont non seulement la crise du milieu, mais également le réchauffement climatique et d'autres défis.
Vous avez lâché le mot « innover ». Je vous pose une question peut-être un peu saugrenue. Est-ce que vous n'avez pas l'impression maintenant que les innovations, ça part dans tous les sens ?
Je ne crois pas. Dans notre domaine, je crois que c'est difficile de ne pas innover face aux défis actuels. Il part dans tous les sens. Nous, on essaye. Ce qu'on a aussi précisé, ou peut-être de préciser, c'est qu'en matière de recherche, c'est une recherche appliquée qui se fait ici à Changin. Donc, elle est en partenariat avec les milieux professionnels et donc adaptée aux défis concrets. Donc, on ne peut pas partir dans tous les sens parce que sinon, personne ne va nous suivre ou personne ne va nous demander ce genre de choses.
Voilà, les clients vont renacler. Mmh. Voilà. Oui. Je veux revenir à une question que j'avais préméditée. J'ai entendu dire qu'à l'école de Changin, au tout départ, quand quelqu'un arrive, on le soumet à épreuve de dégustation. Voilà ce qu'on m'a dit. On m'a dit que l'élève lambda arrive et puis qu'on le soumet à des dégustations à l'aveugle dans lesquelles sont mêlées des bouteilles coûteuses et des bouteilles à bas prix. Et puis que la dégustation étant une école de l'humilité, on remet vraiment les choses à plat pour que Changin se déroule sous le signe de l'absence de préjugés, de choses colportées, etc. On m'a dit que, par exemple, dans des dégustations, on avait des bouteilles chères et des bouteilles bon marché et qu'on s'apercevait, à la grande honte des prétentieux, qu'on n'arrivait pas toujours à distinguer les uns des autres.
Alors je confirme que, en tous les cas, je confirme partiellement ce que vous dites dans le sens où il est clair que dans le cursus de formation, à un moment donné, pas forcément au début, mais à un moment donné, on soumet nos étudiants justement à ces difficultés. Vous l'avez très bien dit, à la dégustation est une grande leçon d'humilité. On les soumet à cette difficulté de vraiment bien et facilement reconnaître le produit et on leur montre combien nous sommes influencés par tous les autres aspects. La vue de la bouteille, la vue de l'étiquette, la vue de la couleur du vin. Et lorsque on vous fait faire le test du vin blanc et du vin rouge et que vous vous trompez lamentablement en disant « ça c'est un blanc magnifique » alors que vous venez déguster un vin rouge, auquel on a soit enlevé la couleur ou le plus simplement on l'a mis dans un verre noir ou on l'a mis dans notre salle de dégustation sous une lumière violette qui fait qu'on ne voit plus du tout les couleurs. Une fois qu'on a compris ces choses-là, on est un tout petit peu plus humble et un tout petit peu plus prudent dans les commentaires que l'on fait, surtout lorsque vous avez une fois peut-être dit des choses très désagréables sur votre propre vin parce que vous ne saviez pas que c'était le vôtre, ou bien très désagréables sur un grand vin, effectivement, qui a été payé bien cher, mais où les commentaires étaient peut-être corrects. Donc oui, nous faisons cet exercice à certains moments. Évidemment, pas au début et pas comme critère de sélection. Hein. Mais effectivement, à un moment donné, pour bien montrer à nos étudiants que... Voilà, la dégustation, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux et d'extrêmement difficile et qu'on ne peut pas se contenter de faire des commentaires comme ça, superficiels, en utilisant des bons mots et des qualificatifs incompréhensibles et qu'on a l'air d'un grand connaisseur. C'est voilà. C'est un apprentissage qu'on, que tout étudiant doit faire.
Voilà, donc on donne le ton quand même.
Tout à fait.
Voilà, par rapport à c'est vrai que le discours sur le vin a pris des proportions des fois hallucinantes et c'est vrai que revenir peut-être à des termes tout à fait simples et je sais pas, que pensez-vous par exemple quand des gens vous disent, ça m'arrive souvent, j'aime ou j'aime pas, mais j'ai pas envie de discourir à perte de vue sur ce vin.
Alors, vous avez tout à fait raison. Moi, lorsque je suis avec des amis ou avec des connaissances, souvent, évidemment, on me dit, mais toi qui es connaisseur, dis-nous, etc. Ou, enfin, on n'ose rien dire tant que tu n'as pas dit quelque chose. Et souvent, je leur dis, mais le plus important, c'est d'arriver à définir si vous aimez ce vin ou si vous ne l'aimez pas, ou si vous l'aimez beaucoup ou plus parce qu'il a tel arôme, puis après vous pouvez chercher un peu plus loin, mais ça n'est pas nécessaire. Et puis l'exercice difficile, c'est d'arriver à qualifier ce que l'on ressent. Mais la toute première chose, c'est est-ce que j'aime ce vin ? Pourquoi est-ce que je l'aime ? Qu'est-ce qui me donne du plaisir ? Et puis ça s'arrête
là. Voilà, j'achète ou j'achète pas. Voilà la question, comme a dit Shakespeare. Voilà. Donc maintenant, je fais l'hypothèse que j'arrive à Changin comme nouvel élève et pétri de bonnes intentions, désir de bien faire et tout. Et alors, quels sont les cours spécifiques ? Quel est l'éventail des cours que vous allez proposer ou imposer ?
Alors, on va parler du bachelor, hein, puisque nous avons plusieurs formations. Restons à ce niveau de bachelor. La première année de bachelor sur les 3 ans est consacrée essentiellement aux matières de base. Elle est un petit peu, on va dire, sèche et difficile dans le sens où il y a des mathématiques, de la physique, de la chimie, quand même beaucoup de chimie parce que c'est des notions importantes. Nous avons de la pédologie, donc c'est la connaissance des sols, la géologie, la botanique. Un viticulteur bachelor doit connaître les plantes, les mauvaises herbes, ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Et donc la botanique est une matière qui est fortement enseignée. La biologie, la microbiologie, donc les levures, les bactéries, tout ça, sont des matières qui doivent être bien connues. La statistique, parce qu'après, quand vous faites des dégustations, quand vous faites de la recherche où vous avez une quantité de résultats, il faut pouvoir s'en sortir avec ce tri des résultats. Donc, la statistique est aussi une matière importante. Et en première année, quand même, pour donner un peu plus de plaisir ou de coloration à la formation, on commence quand même les premiers pas vers la connaissance des cépages et les premières leçons de dégustation.
Donc pas tout de suite.
Voilà. Pas tout de suite.
Donc j'ai réussi ma première année maintenant, voilà. Et j'arrive en seconde.
Alors, en seconde année, on entre de pied ferme dans la viticulture, les bases, en allant au fond des choses. Et l'œnologie avec la technologie de cave. Et toutes les semaines, nos étudiants sont, durant une demi-journée, à la cave, en train de réaliser des opérations de cave, de vinification. Et en corollaire à ça, toutes les semaines également, ils sont au laboratoire, en train de faire des analyses des vins qu'ils ont élaborés ou des vins qui sont en cours d'élaboration dans notre cave pour apprendre à analyser les vins, à porter un jugement sur la qualité de ces vins, sur les défauts qui peuvent se développer. C'est là vraiment le côté concret. Et pour la viticulture, idem, on les retrouvera en classe pour apprendre à connaître la biologie de la vigne, pour apprendre à tous les aspects phytosanitaires, donc les maladies et les ravageurs qui s'attaquent à la vigne. Et on les retrouvera sur le terrain pour expérimenter ces choses-là et pour simplement reconnaître les cépages en vrai sur le terrain.
Oui, d'accord. Ensuite ?
Troisième année, on approfondit ces questions-là. Je crois que j'ai oublié de dire, bien sûr, en deuxième année, il y a la dégustation.
On peut boire un verre de temps en temps,
oui,
quand même.
Bien sûr, qui continue en troisième année. Et qui, quand on parle de dégustation, il y a vraiment l'analyse sensorielle. Hein, décrire ce que l'on ressent, arriver à être reproductible. Parce qu'il y a toujours c'est ça aussi le piège. Hein, quand on vous resserre le même vin 20 minutes après, dans une série et que votre description est totalement différente de la première, il y a un souci. Donc là, c'est un apprentissage qui est relativement difficile. Et à côté de l'analyse sensorielle, il y a vraiment la connaissance des régions, hein, où on passe en revue de manière systématique et je dirais structurée l'ensemble des régions viticoles du monde. Parce qu'un œnologue doit quand même avoir, je veux pas dire tout goûter, mais il doit connaître les principales régions viticoles du monde en ayant non seulement une connaissance théorique, mais en ayant dégusté les produits.
Voilà.
Et dans la dernière année, il se passe un élément extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le travail de bachelor. Ça, c'est vraiment, on pourrait l'appeler travail de diplôme, hein, comme on l'appelait autrefois. C'est vraiment le travail qui couronne l'ensemble de la formation où, sur un thème précis qui a été proposé par un prof, choisi par un étudiant, l'étudiant doit vraiment faire l'étude de A jusqu'à Z, mettre en valeur ses résultats, arriver à, comment dire, à obtenir des résultats fiables, à les mettre en valeur et à être capable de rédiger un rapport synthétique et compréhensible. Et ça, c'est un exercice difficile. C'est vraiment...
Qui consiste à voler de ses propres ailes, si je comprends bien la situation.
Tout à fait.
Denise Cugini, au téléphone, vous m'aviez aussi parlé de gestion de domaine.
Oui, tout à fait.
Son importance, vu que pas mal de vignerons tirent la langue, puisqu'on connaît les difficultés commerciales actuelles.
Oui,
je pense que c'est salutaire pour les vignerons.
J'insiste beaucoup là-dessus, que ce soit à l'école supérieure ou à la haute école. Peu près un tiers, en fait, de la formation est axée sur la gestion de domaine, hein. Comment gérer un domaine, comment faire la promotion, tous les aspects aussi légaux, de comptabilité, parce que finalement, on fait tous ces vins pour les vendre, pour qu'ils soient bu. Mais si on sait pas, s'il manque la dernière partie, c'est un peu dommage. Et ce que je veux souligner aussi, lorsque vous entendiez la description des formations, c'est qu'on travaille beaucoup, on essaie toujours de travailler en amont. On a un souci aujourd'hui de durabilité, de protection de l'environnement, et on sait que plus on connaît, plus on prévient, moins on intervient. Et ça, pour nous, c'est essentiel de former nos futurs diplômés à intervenir le moins possible et à prévenir le plus possible les problèmes qu'ils pourraient rencontrer. Et après, avant de leur vin. Voilà.
Bien, je vais peut-être clore par une question tout à fait provocante. Dans ma famille, on est vignerons de père en fils. Et si je vous dis que j'ai appris sur le tas, comment est-ce que vous réagissez? Et que je fais quand même de très bons vins. Qu'en dites-vous?
Eh bien, je dis bravo, félicitations. Et puis, le fait de mettre à disposition... On va dire, je crois pouvoir le dire, d'excellentes formations à l'attention de nos jeunes et moins jeunes n'empêche pas que ceux qui ont la passion et le plaisir et l'énergie pour se former par eux-mêmes, ça les empêche pas d'arriver à faire d'excellentes choses. J'en connais plusieurs parmi nos aînés. Mais aussi parmi des gens, j'en ai rencontré un au Tessin il y a pas si longtemps. Qui est horloger bijoutier de formation et qui fait d'excellents vins qui sont sur les grandes tables et qui m'a dit mais non, moi je n'ai pas fait Changin. Mais par contre, je me suis entouré de bons spécialistes qui ont fait Changin pour me seconder et m'aider dans cette tâche. Et donc, oui, bravo à lui, bravo à tous ceux qui le font. L'un n'empêche pas l'autre.
Voilà, je vous dis aussi bravo à vous, Denise Cugini. Et monsieur le directeur de Changin, qui animait une école qui est remarquable et connue dans le monde pour sa haute qualité. Merci à vous.
Merci à vous également.